Jésus dit, tu honoreras ton père, ta mère et le CRTC.
Fuck that shit, man.
Rocky.com, dans vos dents et totalement fier de l'être.
You're listening to Rockkick.com.
Don't make me destroy you.
Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
Wesh!
Pour l'Amérique du Nord.
Midi à 16h pour l'Europe.
The Punisher.
Chris Tessar.
Corrélation. Patrick Lamarche.
www.rockkick.com, votre station de radio. Hey, 7h58, ben oui. Ismaël Trépanier, Christian Dallaire, Patrick Lamarche. Wake up le show de 6h à 10h. Hey! Hey! De 6h à 10h. 6h à 10h. André Arthur, ben vous l'avez apprécié, j'espère. Moi, je l'apprécie tout le temps. Je suis pas là. Bon gars, comme dirait l'autre. Maintenant, c'est au tour de Claude Reichmann avec la trame impériale. Vous aurez remarqué qu'on se connecte dans même pas quelques instants à Paris. On s'en va discuter tout de suite avec Claude Reichmann en direct de Paris. C'est le cas de le dire. Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si ça va faire son bonheur, mais il est en train de prendre de plus en plus de place. C'est le cas de le dire, hein? Nicolas Sarkozy qui est en train de faire sa marque, je ne sais pas si je peux dire ça, mais à titre de président de la France. Claude Reichmann, bonjour, j'espère que c'est connecté. Bonjour, c'est connecté de votre côté, tout est OK?
Tout est OK, vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends bien, Monsieur Reichmann. Voilà.
Parfait.
M. Reichmann, c'est aller plus rien comprendre. Nicolas Sarkozy, qui n'arrête plus de faire des campagnes américaines, j'ai l'impression qu'il aurait pratiquement le goût de devenir le prochain président des États-Unis. M. Reichmann, vous trouvez pas?
Écoutez, si vous lui posez la question, il vous répondra non. Mais je pense que dans le fort de sa conscience, il aimerait bien.
Oui.
C'est un rêve d'enfant, sans doute. Mais par définition, c'est puéril.
C'est
clair. Je crois qu'en réalité, son voyage aux États-Unis ont été vraisemblablement destinés à améliorer les relations franco-américaines, mais... je pense que c'était aussi nécessaire compte tenu du fait que Chirac et Villepin avaient envenimé beaucoup ces relations qui ont tout intérêt à être bonnes, car nous sommes, en ce qui nous concerne, nous sommes nous favorables bien entendu à une union occidentale, c'est-à-dire avec les pays qui nous ressemblent, comme les États-Unis, le Canada et les pays européens. Parce que c'est un des rares points sur lesquels je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy, même si son expression n'a peut-être pas toujours été la bonne, mais enfin, en tout cas, je crois que sa démarche était une bonne chose.
Je ne sais pas pourquoi, mais hier, je suis tombé sur un reportage qui expliquait que le rapport de force des consommateurs, des contribuables français, oui. Était autour de environ 50%. Vous dites 50%, est-ce que...
Vous parlez de quoi? Du taux de prélèvement des...
Non, mais l'argent, ce que les Français ont comme argent dans les poches, c'est comme s'ils avaient, c'est comme s'ils avaient seulement 50% de leur paye. Mais j'essaie de m'y retrouver, M. Reichmann, parce que d'autres me disent 65, d'autres me disent 55. C'est quoi le réel taux d'imposition de votre côté en France?
Je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire qui inclut les impôts et les charges sociales, est en France actuellement de l'ordre de 44 à 45% du produit intérieur brut. D'accord ?
Ok.
Et donc, il y a en plus ce qu'on appelle les dépenses publiques, c'est-à-dire ce sont les prélèvements obligatoires, plus l'argent qu'on est obligé d'emprunter parce qu'on dépense davantage qu'on ne rentre d'argent. Et là, on en arrive à 55%. C'est-à-dire qu'en fait, la France dépense 55% de ce qu'elle produit et là-dessus, elle s'endette à raison de à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de milliards d'euros par an.
Oui.
Et cet endettement s'ajoute à la dette publique qui est actuellement de 1200 milliards d'euros. C'est-à-dire que chaque année, l'année par exemple qui vient, la France a voté un budget en déficit, c'est-à-dire que nous allons dépenser une fois encore en 2008 davantage que nous n'allons gagner, enfin que l'État ne va gagner en l'occurrence, c'est-à-dire qu'il ne va être produit, et donc il va dépenser cette année encore 41,7 milliards d'euros, c'est le chiffre qui a été retenu dans le budget, dans le budget pour 2008. Et c'est extrêmement négatif parce que la fameuse rupture dont se prévalait M. Sarkozy aurait dû se traduire dès la première année, car c'est son budget. Il a eu une tendance à dire non, 2008, ça n'est pas moi parce que je suis arrivé en cours d'année. Mais ça n'est pas vrai. On peut parfaitement, quand on arrive en cours d'année, faire un budget, modifier le budget, faire ce qu'on appelle un collectif budgétaire qui vous permet de modifier les grandes lignes. Alors je veux bien admettre que sur l'essentiel c'est un petit peu difficile, mais il aurait dû au moins faire le geste de réduire sensiblement le déficit, c'est-à-dire de dire ben, nous ne pouvons plus dépenser autant que nous dépensons, car sinon nous allons encore une fois l'année prochaine augmenter la dette et donc l'endettement des Français, et c'est exactement le signal inverse de celui qu'il aurait fallu donner. Et là, vous voyez, nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave, parce que le problème de la France, et c'est pour ça qu'on dit que la France est en faillite, le Premier ministre lui-même, M. Fillon, l'a dit, elle n'est pas tellement en faillite à cause de ses dettes, qui sont certes importantes, mais qui ne représentent que 66% du produit intérieur brut. Il y a des pays qui sont au-dessus de ce pourcentage, mais ce qui est le plus inquiétant pour la France, c'est qu'elle ne sait pas réduire ses dépenses, et nous continuons d'afficher des budgets en déficit. Et ce qui fait la qualité d'un emprunteur, c'est moins la quantité de sa dette, encore ce ne soit pas indifférent, mais c'est surtout sa capacité à commencer à la rembourser. Or, la France ne peut absolument pas rembourser sa dette puisqu'elle continue de s'endetter. Vous voyez le problème, la façon dont il se pose. Et c'est pour cela que les agences de notation internationales vont commencer très certainement à se faire du souci sur les emprunts contractés par la France, parce que on peut se demander si la France sera capable de rembourser, puisqu'elle n'est même pas capable de rembourser sa dette. C'est comme si vous, M. Trépanier, dans votre famille, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes marié, mais
non,
supposons...
Non.
Bon, alors dans votre...
Conjoint de fait, j'ai quand même... mon union m'a donné une petite fille, alors...
Ah, bah écoutez, alors félicitations, je la prends aujourd'hui. Donc.
Je l'arrête de vous le dire avant,
oui. Je vous en félicite aujourd'hui, donc, avec retard. Non, si votre famille, parce que c'est votre famille, quel que soit le statut sous lequel vous êtes unis, votre famille dépense chaque année une certaine somme. Cette somme, vous êtes censé la posséder, ou en tout cas, vous pouvez l'emprunter s'il vous en manque un peu. Mais si le banquier qui vous a prêté de l'argent, s'il s'aperçoit que chaque année, vous demandez un emprunt supplémentaire et que vous n'arrivez même pas à rembourser votre dette et que d'autre part, vous empruntez pour pouvoir rembourser la dette, il va dire, Monsieur Trépanier, vous n'êtes pas tout à fait sérieux, il serait temps que vous dépensiez moins. Eh bien, la France est exactement dans cette situation. Nous sommes dans l'incapacité de dépenser moins, c'est-à-dire que le gouvernement n'arrive pas à dire, voilà, nous allons réduire telle dépense publique, avoir moins de fonctionnaires, dépenser moins d'argent pour tel ou tel investissement, on est bien loin des investissements d'ailleurs, mais enfin telle ou telle dépense de fonctionnement, augmenter encore une fois telle ou telle assistance à telle ou telle catégorie, bref, dépenser. Si nous n'arrivons pas à cesser de dépenser et à ramener au moins nos dépenses au niveau de nos recettes, eh bien, nous nous endettons en permanence et nous avons une réputation petit à petit de mauvais rembourseurs. C'est exactement comme pour vous, si vous ne remboursiez pas les dettes qu'éventuellement vous avez.
Exactement. Et là, votre euro qui est en qui ne cesse pas de grimper, est-ce que ça arrange peut-être un peu les choses ou ça ne fait que masquer à peine donner un élan au niveau de l'économie française, parce que c'est quand même rendu à 1 $, je crois c'est 1,40 €, quelque chose comme ça.
Oui, même au-dessus, on en est,
combien?
Je crois, 1,46 aujourd'hui, 45-46, oui.
Est-ce que vous croyez que ça peut donner des chances, M. Reichmann?
J'ai bien lu. Écoutez, ça a un double effet. L'euro a un avantage, l'euro fort, c'est que nous payons notre pétrole moins cher, car le pétrole, comme vous le savez, est facturé en dollars. Mais ça n'est pas vraiment une dépense de l'État, c'est une dépense des particuliers pour l'essentiel, même si l'État lui aussi consomme du pétrole, puisqu'il chauffe les bureaux, on dit même qu'il les surchauffe, et qu'il y a un certain nombre de transports qui sont effectués pour les services de l'État. Mais enfin, l'essentiel de la dette de la facture pétrolière est assumée par les particuliers. Donc ça ne joue pas vraiment sur les finances publiques. En revanche, ça a un effet très important, c'est-à-dire que l'euro fort a évidemment un gros inconvénient, par exemple en ce qui concerne Airbus. Chaque fois que l'euro progresse de 10 centimes, les dirigeants d'Airbus disent qu'ils perdent un milliard de dollars. Donc on est vraiment dans une situation de concurrence extrêmement difficile. Mais d'autre part, l'euro a un immense avantage pour les mauvais gestionnaires que sont les hommes publics français, c'est que s'il n'y avait pas l'euro, compte tenu des déficits permanents qui sont le lot de la France actuellement, voilà au moins 2 ou 3 ans que nous aurions dû dévaluer plusieurs fois le franc, si on était resté dans le franc. Et donc l'euro nous protège jusqu'au moment où nos partenaires européens de la zone euro, qui sont 13, nous dirons, écoutez, ça suffit comme ça, vous êtes en train de casser l'équilibre de la monnaie unique parce que vos déficits rendent la stabilité monétaire beaucoup plus aléatoire. Et donc il y a un moment, et ce moment est proche d'ailleurs, où l'Europe utilisera les moyens dont elle dispose, en particulier elle peut envoyer des avertissements publics qui feront évidemment très mauvais effet à la France, qui sera à ce moment-là obligée de faire un plan de réduction de ses dépenses très fort et très rapide. Et c'est là que les problèmes vont devenir très importants.
Est-ce que ça a déjà été, M. Reichmann, une possibilité, là, une solution à envisager, c'est-à-dire on vend la France, on la vend à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de possible, ça?
En ce qui concerne ces entreprises, elles sont déjà largement vendues.
Oui.
Ça, vous savez que les 40% je crois à peu près des entreprises, plutôt les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire les principales entreprises françaises, celles, oui, qui sont cotées en bourse, sont possédées à plus de 40% par des fonds étrangers. Donc les entreprises françaises sont déjà possédées pour la moitié d'entre elles par des firmes étrangères. Et en ce qui concerne les propriétés de l'État, pour l'instant on ne les a pas vendues, pas toutes en tout cas, mais on a fait des estimations récentes qui prouvent que même si on se mettait à vendre par exemple le château de Versailles ou l'Arc de Triomphe ou ce genre, ou la Tour Eiffel,
oui,
encore que la Tour Eiffel, je ne me souviens plus quel est exactement son statut, mais enfin bref, si on vendait les monuments publics, eh bien, on en retirerait des sommes bien insuffisantes pour combler les déficits français.
Ouch.
Mais vous savez, c'est une je vous ai interrompu, mais...
Non, pas de problème.
C'est une situation que nous avons déjà connue sous la 4e République, et même ça avait donné lieu à des sketchs comiques. On manquait tellement d'argent que des fantaisistes qui étaient à,
oui,
l'époque, qui débutaient leur carrière, mais qui étaient déjà très brillants, en particulier Poiret et Serrault,
okay,
avaient fait un sketch,
oui,
dans lequel l'un d'entre eux disait, mais voilà, je voudrais pour une association d'anciens combattants faire une manifestation à l'Arc de Triomphe. Et l'autre lui disait, ah ben c'est pas possible, non, c'est pas possible, l'Arc de Triomphe est en tournée avec le Radio Circus. Et donc, c'est-à-dire, si vous voulez, vous avez imaginé que on prenait les bâtiments et qu'on les envoyait en tournée dans la France profonde pour essayer de gratter un petit peu d'argent. Il y avait également dans d'autres pays à l'époque, même l'Espagne était réputée également avoir des finances un peu difficiles. Et alors, il y avait un sketch également qui avait été fait par Francis Blanche et Pierre Dac dans leur célèbre feuilleton Malheur aux barbus. Donc ils avaient imaginé une scène qui se déroulait dans une prison espagnole. Vous savez, on dit que des auberges espagnoles qu'on y trouve que ce qu'on y apporte, en réalité c'est faux, parce que l'auberge espagnole accepte ce que n'acceptent pas les restaurants en général, qu'on apporte son manger, comme on dit. Et donc vous pouvez parfaitement vous contenter d'une boisson, vous amener à manger, c'était une vieille tradition espagnole. Mais bref, on a fini par étendre ça à des conceptions qui n'étaient pas absolument exactes, mais
oui,
ça devenait très drôle, car
tout à fait,
dans cette prison espagnole où se déroulait la scène imaginée par Pierre Dac et Francis Blanche, qui étaient vraiment les rois des rigolos, mais des gens pleins d'humour et pleins de talent, la ronde des gardiens se faisait dans des conditions très particulières, parce que d'habitude les gardiens criaient qui va là, qui va là, et là il criait Mobile Oil, Mobile Oil. faisait de la pub pour essayer de gratter un petit peu d'argent. Quoi. Ah, alors nous, en France, bientôt, si ça continue, on va en être là. Et quand la prochaine fois que Nicolas Sarkozy s'apostera aux étranges lucarnes, comme on dit, c'est-à-dire paraîtra à la télévision, il y aura un speaker qui, d'une voix très grave, expliquera « Madame, mademoiselle, monsieur, nous sommes heureux de vous présenter, offert par Mobileye ou par les champs d'op, monsieur Nicolas Sarkozy lui-même. » Et nous nous interrompons aussitôt pour une pause publicitaire. L'étalonnette de monsieur Sarkozy mesure 10 cm. N'hésitez pas à nous demander, nous avons tous les modèles.
Oui, allez, ça serait incroyable.
Là, au moins, ça va être drôle. Là, la télévision va devenir marrante.
Ah oui, ça serait totalement invraisemblable, mais comique.
Ben, écoutez, vous m'interrogez sur le déficit et sur la dette, ben, je vous dis où ça peut mener.
Oui, on prend un arrivé là. Ah oui, le shampoing lustre. Voilà. Pourquoi Sarkozy a les cheveux lustre lustrants? Voilà. Il utilise bien sûr prépuce.
Ben voilà, monsieur Sarkozy a une belle chevelure. Ses récents déboires conjugaux l'ont décidé à se passer désormais des pellicules et maintenant tel shampoing anti-pelliculaire, son succès est garanti.
Ah oui, ce serait une excellente façon, monsieur Reichmann, de rentabiliser les finances. Voilà.
je trouve qu'on perd beaucoup de temps en France à ne pas prendre ces dispositions, parce qu'on arriverait au moins, grâce aux recettes publicitaires. Écoutez, Sarkozy parle tous les jours à la télévision. Donc, si on met un peu de pub, ça va nous rapporter beaucoup d'argent.
C'est clair. De tout voilà. Il a eu, vous avez probablement vu, le standing ovation, hein, oui. Les applaudissements debout, oui, du congrès américain. C'est oui, tellement un show, c'est tellement un spectacle.
Non, mais c'était très vexant pour lui, parce que quand ils se sont tous levés, il a vu qu'ils étaient plus grands que lui, donc c'était... Il l'a très mal pris.
Ah, il a le syndrome de Napoléon Bonaparte, hein? Ah, il est plus petit que tout le monde, alors il a besoin de tabouret.
Voilà. Ces salopards d'Américains se sont levés pour m'humilier.
Ah oui, c'est clair. Il a même fait mangé lors d'un souper, un cocktail dînatoire, pour tout simplement... Je sais pas, est-ce que vous voyez poindre à l'horizon une possibilité que les Américains travaillent beaucoup plus, ou enfin, est-ce que c'était juste un spectacle, M. Rushman, selon vous, ou c'est tout simplement, d'une certaine façon, une bonne nouvelle de renouer avec les Américains, parce que la France, on se le cachera pas, hein, c'était un peu la face cachée, hein, la face cachée, oui, de l'Amérique, mais version française, la France, voilà.
Alors vous, je ne sais pas si vous avez parlé que les Américains travaillent plus, c'est cela, ben, ou les Français?
C'est les Américains.
Vous avez dit les Américains. Est-ce que
les Américains
travaillent beaucoup?
Les Américains travaillent en moyenne 82 heures par semaine, Monsieur Reichmann.
Oui. Alors justement, j'avais fait un calcul qui va vous éclairer, je pense.
Oui.
Savez-vous qu'un Français de 65 ans et un Américain de 65 ans, quand ils comparent leur vie, ont un bilan tout à fait différent l'un de l'autre. Voilà, un Français de 65 ans aura travaillé 11 ans de moins qu'un Américain de 65 ans. Et je vous explique pourquoi. On suppose qu'ils ont commencé à travailler à 25 ans, par exemple, et qu'ils ont travaillé 40 ans. Bon, le Français travaille en général 500 heures de moins ou 400 heures de moins que l'Américain. Donc, sur ces 40 ans de vie active, ça aura fait à peu près 6 ans de travail en moins par rapport à l'Américain. D'accord ?
Ok.
Et comme il part, le Français, à 60 ans, et beaucoup d'ailleurs partent avant, et que l'Américain part à 65 ans, et même d'ailleurs souvent davantage, ça fait 5 ans de plus de travail. Donc, à 65 ans, le Français a travaillé 11 ans de moins que l'Américain. Étonnez-vous, après cela, que l'Amérique soit plus riche que la France. À moins que vous ne considériez, M. Trépanier, auquel cas je vous demanderai de me donner la recette, qu'on peut arriver à devenir riche sans travailler. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un petit mot pour me dire la recette, je vous promets de ne pas la divulguer.
J'espère, hein, parce qu'attention, là, je vais vous révéler un secret d'État, c'est le cas de
oui, absolument.
C'est un peu le même problème que nous, qu'on a ici au Québec. Les gens ne désirent pas travailler plus de 35, 37 heures, 40 heures à peu près maximum semaine. Et automatiquement, que les gens qui font au-delà de 50, 60, 70 heures semaine, même voire 80 heures semaine, tel est mon cas, ok, je peux, oui. M. Reichmann, par semaine, des fois, aller chercher 90 heures semaine, des fois un 95 heures semaine, et je ne dors pas beaucoup. Plusieurs personnes me disent, ouais, mais comment tu fais? Non, c'est simplement une question de gymnastique. Lorsque vous en faites plus d'une fois de la gymnastique, ben, vous venez habituer. D'en faire, vous êtes plus à l'aise de vous, lorsque vous vient le temps de s'échauffer, vous avez besoin moins de temps à vous échauffer et vous pouvez tout de suite pratiquer votre gymnastique, ok?
Exactement, mais vous avez raison, c'est l'entraînement. D'abord, vous avez goût à ce que vous faites, donc vous le faites avec plaisir et avec enthousiasme même. Et puis, étant donné que vous êtes habitué à cet effort parce que vous vous êtes entraîné, cet effort vous coûte moins. Donc tout ceci, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est-à-dire que l'on travaille plus parce que on aime travailler et que les résultats qu'on obtient sont satisfaisants. Et plus on travaille, plus on a l'entraînement nécessaire, donc moins on se fatigue. Bon, tout a des limites, mais enfin, entre 35 heures et 80 heures, il y a toute une série de stades intermédiaires auxquels on peut ici ou là s'arrêter.
Automatiquement, de ce que j'ai pu remarquer, M. Reichmann, automatiquement qu'on travaille beaucoup plus que la normale, on se fait traiter, attention, tu vas avoir une dépression, Ismaël, la fatigue s'en vient. Mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge terrible, ça.
Les plus déprimés, ce sont les inactifs.
Oui.
Ça, c'est un principe tout à fait établi. Nous savons exactement que c'est l'activité, lorsqu'elle est agréable, ou en tout cas lorsqu'elle est exercée avec plaisir et satisfaction, l'activité est un excellent moyen à la fois de conservation de sa forme physique, de conservation de son état mental et de son équilibre mental. Le tout, c'est de ne pas avoir des excès de travail sous le stress, parce que c'est ce qu'on appelle le stress, en réalité, c'est assez compliqué, mais le véritable stress est beaucoup plus celui de l'angoisse que celui de la fatigue. Bon, la fatigue, c'est quelque chose dont on se remet bien par le repos. L'angoisse, elle, ne se guérit pas par le repos. Mais ce qui est certain, c'est que vous connaissez la chanson « Le travail, c'est la santé » d'Henri Salvador. Bon, eh bien, c'est un dicton populaire, et donc il a toujours valeur, et je pense que actuellement vous nous faites vous-même la démonstration de étant en bonne forme que le travail c'est la santé.
Oui, tout à fait. Automatiquement que j'en fais, je révèle mon nombre d'heures. Oh, mais ça se peut pas, capitaliste, espèce d'Américain, t'es un dangereux. Pourquoi qu'on me dit ça? Je le sens comme ça. C'est parce que ça va inciter les gens à faire la même chose. Et je vais être oublié. Les gens, c'est ça, et voilà.
Et la véritable raison pour laquelle on vous dit cela, c'est que, comme disent certains, vous gâchez le métier. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ne veulent pas travailler sont évidemment mis en difficulté face à quelqu'un qui travaille. Ça pose un problème à tout le monde. Celui qui travaille, il dit à la face de ceux qui ne travaillent pas, bah, « faites comme moi ». Alors évidemment, si vous n'avez pas de boulot, c'est difficile de se lancer dans ce genre de compétition. Mais s'il y a du travail pour tout le monde, et si tout le monde peut le faire, celui qui travaille est une véritable épine dans le pied de celui qui ne travaille pas. Et c'est pour cela qu'on vous accuse, je dirais, d'être un mauvais citoyen, un mauvais Canadien, un mauvais Québécois.
Alors, on devrait, et Dieu sait qu'avec le système qu'il y a en France ou encore au Québec, ultra syndiqué, c'est pas les syndicats demain matin qui vont demander aux gens allez travailler plus, augmenter votre nombre d'heures de travail, mais et augmenter votre nombre d'heures de travail au même salaire. Probablement qu'ils diraient augmenter le salaire, augmenter les heures de travail. Ça ne fonctionne pas.
Le rôle des syndicats, c'est évidemment toujours de réduire le temps de travail, d'apporter des avantages. Bon, on peut pas le leur reprocher dans la mesure où c'est un petit peu dans leur nature, mais on n'est pas obligé pour autant de suivre toutes leurs revendications, et en particulier lorsque ces revendications sont déraisonnables. Et en France, par exemple, c'est tout à fait déraisonnable, parce que je vous ai tout à l'heure indiqué à quel point nous ne travaillons pas assez, et la raison pour laquelle nous avons des déficits partout, c'est bien sûr que nous dépensons trop, mais aussi nous ne travaillons pas assez. Et donc, tout ceci fait qu'il faut d'une manière ou d'une autre prendre conscience de cela. Mais le problème qui se pose, et je crois qu'on l'a un peu partout, mais en France tout particulièrement, c'est le fait qu'on n'explique pas aux gens la raison pour laquelle le travail rapporte. Ça peut paraître bizarre, mais vous savez, en France, comme dans pas mal de pays où l'assistance est de règle, les gens ont l'impression que l'argent, on le leur doit. Donc ils se disent, ben voilà, moi je peux très bien avoir de l'argent sans rien faire. C'est absolument ahurissant, mais comme personne ne leur dit le contraire, ou en tout cas personne ne leur explique pourquoi c'est faux, on a eu un exemple parfait avec les 35 heures. Les 35 heures ont été faites sur le thème, vous allez travailler moins, ça va donc donner du travail aux autres. Seulement le problème, c'est que ça a été exactement l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé moins ont produit moins de richesses, donc les entreprises n'ont pas eu de marché suffisant, et donc n'ont pas pu embaucher, et donc les 35 heures, loin de créer des emplois, en ont détruit beaucoup. Seulement, ça, c'est une explication que l'on doit attendre des journalistes, des économistes, des gens qui s'expriment, et encore plus des politiciens, parce que c'est quand même à eux, puisqu'ils dirigent le pays, d'expliquer à ceux qui les ont élus quels sont les véritables enjeux économiques et sociaux. Or, nous sommes vraiment en France dans un état de démission générale des élites, ou en tout cas de ceux qui se baptisent ainsi ou qui sont considérés comme tels, qui ne disent pas la vérité. Et vous avez même des journalistes qui commencent à le dire, des journalistes du système. Là, j'ai cité sur mon site internet un certain nombre d'articles qui sont écrits sur un blog qui est celui de Jean-Michel Apathy, qui est un des journalistes vedettes de la station RTL. Il fait l'interview politique du matin tous les jours à 8h-10, et Jean-Michel Apathy écrit sur son blog tout ce qu'il ne dit pas à l'antenne, et en particulier il dit en substance ce que je dis moi-même depuis des années et des années. Bon, lui, il a mis une trentaine d'années à comprendre, mais enfin, à tout péché miséricorde, il vaut mieux comprendre tard que jamais. Mais enfin, c'est quand même frappant de voir quelqu'un qui vit du système, parce qu'il interviewe tous les matins des gens du système, lesquels lui répondent des conneries, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est bien simple. Moi, j'entendrai des conneries qu'on me dit, je lui filerai une beigne, comme dit l'autre. c'est pas possible d'avoir un ministre qui vous raconte n'importe quoi, ou un homme politique qui ment effrontément, enfin bref.
Est-ce qu'on s'est déjà pensé, et j'en suis sûr qu'on l'a déjà fait, M. Reichmann, vous êtes-vous en France déjà penché sur le dossier du nombre de fonctionnaires, du nombre de gens syndiqués, que si on coupait dans la fonction publique, qu'il y aurait une économie qui donnerait un second souffle probablement à l'économie française? Est-ce que c'est peut-être possible, ça? Hein? Parce que nous, de notre côté, M. Reichmann, c'est quelque chose d'envisageable, mais aucun politicien le fait pour la simple et bonne raison qu'il désire pas perdre de vote, quand même. C'est tout.
Oui. Oui, mais pourtant, au Canada, il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été faits. J'ai même lu que les impôts allaient commencer à baisser un petit peu parce que, justement, le budget canadien a été remis en solde et à peu près en équilibre.
Ah, ça, c'est le budget, M. Reichmann, ça, c'est le budget canadien.
Le budget fédéral.
Et voilà, fédéral. Voilà, c'est très différent.
Je ne parle pas du budget québécois.
Tout à fait.
Le budget fédéral.
Oui.
Et en France, nous avons, en France, bien sûr, ce problème, je le traite depuis des années et des années, et nous avons un double problème. Il y a en France deux fois plus de fonctionnaires que dans les pays du G7. C'est-à-dire que nous avons un fonctionnaire pour 13 habitants, si je me souviens. Non, pardon, 13% de fonctionnaires, excuse-moi. Nous avons en France 25% de la population active qui a le statut de fonctionnaire, alors que la moyenne dans les pays du G7, c'est de 12,5 à 13%. C'est-à-dire qu'en fait, nous en avons deux fois plus. Mais ces fonctionnaires ne sont pas tous des fonctionnaires d'État. Ils bénéficient tous du statut de la fonction publique, ou en tout cas d'un statut de fonction publique, qui leur garantit notamment l'emploi à vie, mais ils ne sont pas tous fonctionnaires d'État. Or, si on supprimait ce statut à ceux qui n'ont aucune raison de l'avoir, à commencer par les fonctionnaires hospitaliers. Une infirmière n'a aucun besoin d'être fonctionnaire. Un médecin des hôpitaux n'a aucun besoin d'être fonctionnaire. Un ambulancier ou un brancardier n'a aucun besoin d'être fonctionnaire. Bon, ça, vous réduiriez déjà de plus d'1 million de personnes environ le nombre de fonctionnaires. À ce moment-là, ils entreraient dans le secteur privé et ils entreraient dans un autre type de budget. Deuxièmement, vous avez encore un bon million de personnes qui sont employées par les collectivités locales, les communes, les départements et les régions. Ces personnes n'ont aucune raison d'être fonctionnaires. Il n'y a absolument aucun besoin. Donc si déjà sur les 6 millions de fonctionnaires, vous pourriez tout de suite en diminuer plus de 2 millions qui n'ont aucune raison d'exercer leur profession sous le statut de fonctionnaire. Puis ensuite, on pourrait se pencher sur le cas de toute une série de gens qui n'ont, eux non plus, aucune raison d'être fonctionnaire. Qu'est-ce qui oblige un enseignant à être fonctionnaire ? Rien du tout. La tradition, direz-vous, l'habitude, le fait qu'ils ont été engagés sous ce statut. Mais au fond, où que l'on aille, on peut réduire le nombre des fonctionnaires à très peu de choses, puisque les seuls qui devraient, et encore on peut même en discuter, c'est les fonctionnaires qui effectuent ce que l'on appelle les tâches régaliennes, c'est-à-dire les tâches qui sont vraiment dévolues à l'État, qui c'est la justice, la police, et encore, la police, vous savez qu'en France, il y a autant de police privée que de police publique, c'est déjà un premier point, donc c'est qui est prouve qu'on peut faire de la police sans avoir un statut de fonctionnaire, et vous avez également en France des magistrats qui sont fonctionnaires, ce qui est le contraire même de l'indépendance de la magistrature, car qui dit fonctionnaire dit hiérarchie et soumission à la hiérarchie. Or, les magistrats se prétendent indépendants et en même temps, ils sont dépendants de leur hiérarchie. Donc, c'est tout à fait contradictoire.
Un système qui a été imposé, j'en suis sûr, M. Reichmann, qui a été imposé par eux et qui a été enfoncé dans la gorge des contribuables de votre côté ou encore de notre côté. C'est la même chose. Et là, maintenant, on est habitué, nous, à titre de contribuables, de croire que ce système-là, parce que ça fait quand même un certain temps que le système est en place, on croit que c'est la bonne méthode, c'est la bonne façon, et ça prend des gens comme vous et moi pour défoncer les portes à coups de pied et de les réveiller. Wake up, c'est ça le titre de l'émission. Je trouve ça déplorable d'avoir encore au 21e siècle, si on a pourtant, on voit dans beaucoup de journaux qu'on a évolué sur la technologie, sur plein de choses, mais sur le quotient intellectuel, est-ce qu'on a évolué pour comprendre qu'il faut travailler plus pour avoir plus? Sinon, bang, c'est banqueroute.
Exactement. Et là, nous sommes, vous avez parfaitement raison, ce sont les personnes qui ont voulu bénéficier de ce statut ou qui sont entrées parce que le statut existait déjà, qui nous obligent, nous, membres du secteur privé et contribuables, à les payer et à les payer d'une manière parfois incontrôlable, alors qu'ils ne devraient absolument pas bénéficier de ce type de garantie. Donc, il y a beaucoup de pays où les magistrats sont élus. Il n'y a aucune raison qu'ils soient systématiquement fonctionnaires. Je suis d'ailleurs convaincu que si les magistrats n'étaient pas fonctionnaires, ils rendraient une meilleure justice. Mais le problème, c'est que la justice française est parfaitement soumise au pouvoir politique. Parfois, elle le brocarde. Parfois, elle, pour des raisons idéologiques, comme le syndicat de la magistrature, elle est opposée au pouvoir politique quand celui-ci n'est pas à gauche. Mais d'une façon générale, tous ces gens prospèrent sur le lit des impôts, et donc tout ceci est absolument inacceptable. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de choses inacceptables du même style. Vous avez, quand il y a un problème de caractère fiscal, vous entendez qui ? Le syndicat des impôts, les fonctionnaires des impôts, ils prennent position sur la validité ou l'invalidité, selon eux, de telle ou telle disposition fiscale. Mais c'est absolument scandaleux.
Oui.
Ils sont chargés de l'exécuter et non pas de juger. De même, les magistrats prennent position parfois sur telle ou telle disposition de caractère législatif ou autre, et ils n'ont absolument pas à le faire. Qu'ils prennent position à l'occasion de congrès, de séminaires ou autre, c'est leur droit et c'est parfois même intéressant et utile. Mais une fois que la loi a parlé, c'est-à-dire une fois que le Parlement a décidé de voter une certaine loi, les magistrats n'ont pas à prendre position de cette manière-là. Ils ont le devoir simplement d'appliquer la loi. Donc on est arrivé à un stade où plus personne n'obéit vraiment à son statut, au statut qu'il devrait avoir. C'est une véritable situation d'anarchie, et le plus extraordinaire, c'est qu'on a créé de l'anarchie avec des fonctionnaires. C'est quand même un comble. Par définition, le fonctionnaire, c'est tout ce qui va à l'encontre de l'anarchie, puisqu'il obéit, il est aux ordres de l'administration et du gouvernement, et donc il doit être tout à fait le meilleur rempart contre l'anarchie. Or, c'est eux-mêmes qui organisent l'anarchie par des comportements, effectivement, de caractère scandaleux, parce qu'ils n'ont pas la vocation à s'exprimer ainsi, à se comporter ainsi.
Monsieur Reichmann, il y a quelqu'un qui nous donne une solution fantastique. Savez-vous c'est laquelle? Concernant le fait de devenir riche, Monsieur Reichmann. Eh bien,
Je prends note.
Oui, prenez note. On nous a donné peut-être une solution. On nous a donné peut-être une possible solution, Monsieur Reichmann. Enfin, oui. On verra, peut-être que ce sera la solution pour tout le monde. Dans le fond, je vais la donner au grand public. Je vous révélerai ma version secrète de comment faire de l'argent sur le dos du gouvernement sans qu'il vous attrape. On nous dit de gagner au loto et de sudoyer les gens qui vont nous faire tirer le prix de la loto. Alors voilà.
Là, effectivement, ben il y a des gens qui ont déjà essayé plus ou moins. En particulier, il y a eu des buralistes qui avaient vu qu'un ticket de loto était gagnant et qui se l'étaient approprié en France il y a quelques mois de cela. C'est aussi une très bonne technique, ça, c'est parfait. Exact. Non, mais écoutez, moi je n'ai pas jusqu'à présent trouvé. En tout cas, dans la littérature, de moyens vraiment honnêtes de faire fortune en travaillant. J'ai toujours constaté que ceux qui faisaient fortune, alors j'exclus bien entendu de ce jugement négatif tous ceux qui ont fait fortune en travaillant, par exemple dans les affaires ou ailleurs. Et bien sûr, ils ont travaillé, ils ont eu du succès, ils ont eu des idées, ils le méritent entièrement. Mais pour le reste, moi je vois surtout bénéficier de situations extraordinaires des gens dont la malhonnêteté est la caractéristique principale. Et tout ceci est évidemment très préoccupant dans une démocratie, parce que notre sentiment est toujours la révolte. Et en même temps, nous avons en France, là, la presse aujourd'hui en France est assez profuse.
Monsieur Reichmann, je vous perds un peu là, monsieur Reichmann, vous êtes loin là.
Vous m'entendez mieux là maintenant?
Oui, parfait.
Voilà. Donc la presse aujourd'hui fait état, à juste titre, des gros problèmes de pouvoir d'achat.
Et éloignez juste un tout petit peu, monsieur Reichmann, éloignez juste un tout petit peu le micro de votre bouche.
D'accord, ça va mieux là comme ça?
Oui, parfait, là, c'est parfait, merci.
Il y a un petit problème il a dû bouger un peu. Voilà, donc la presse dit que les Français, et c'est vrai, ont un énorme problème de pouvoir d'achat, car les dépenses augmentent et les salaires ne bougent pas. Mais tout ça est dû à ce que nous avions évoqué tout à l'heure en commençant notre conversation, à savoir les dépenses publiques. C'est-à-dire dans tout ce que vous faites, oui. Quand vous allez prendre un café, par exemple, au bistrot,
oui.
Vous prenez un café, vous y mettez un sucre éventuellement, et à l'intérieur, vous avez quelque chose de très amer, qui oui. Le rend bientôt imbuvable, c'est 54% de dépenses publiques. C'est-à-dire que tout acte que vous faites, vous avez des dépenses publiques. Quand vous allez acheter une chemise, par exemple, les chemises ont beaucoup baissé parce qu'il y a des importations d'Asie. Mais si votre chemise vous paraît un peu lourde, même s'il est dans un très bon tissu et bien coupé, c'est parce que sont pendus à votre chemise 54% de dépenses publiques. Alors je ne vous évoque pas les autres pièces du costume, parce que nous arriverions vite à parler de choses que la morale réprouve, mais mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quoi que vous fassiez.
on me donne une autre solution aussi, solution pour devenir riche sans rien faire, c'est-à-dire de devenir banquier, M. Reichmann.
Oui, bah évidemment, mais à ce moment-là, vous êtes condamné à prendre l'argent des autres. vous savez qu'il y a beaucoup de banquiers qui sont pauvres aussi maintenant, enfin ceux qui ont été ruinés en particulier par l'affaire des subprimes américains. En fait, c'est pas eux qui sont pauvres, ce sont leurs clients, ce sont les gens à qui ils ont vendu les crédits hypothécaires sous forme d'obligations. Enfin, bon, disons que les moyens de faire fortune, en réalité, pour être sérieux, même si j'aime beaucoup plaisanter, je pense que ce qui est très important dans un pays, quel qu'il soit, c'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui fait la richesse d'un pays, et c'est elle qui est le principal ressort de ce pays. Or, actuellement en France, la classe moyenne est dans une situation déplorable. C'est elle qui paye tout, elle ne reçoit presque rien. Ce sont les gens, les assistés qui reçoivent l'essentiel des crédits publics, ainsi que les fonctionnaires qui bénéficient, d'emplois qui sont souvent confortables, et en tout cas d'emplois trop nombreux pour que nous puissions les supporter d'une manière acceptable. Donc la classe moyenne française est en train de supporter un choc qui va très vite devenir particulièrement violent, parce que nous savons que quand les gens ne s'en tirent pas, ce qui est le cas actuellement en France, où la plupart d'entre eux, ils ont tendance à se mettre en colère. Et moi, je pense, comme d'ailleurs beaucoup d'observateurs,
oui.
Que nous sommes à la veille d'événements qui risquent d'être dangereux, parce que justement, l'État ne sachant pas diminuer ses dépenses, les citoyens contribuables et consommateurs n'ont plus assez pour vivre. Et là, ça devient très préoccupant, et nous savons tous très bien que c'est quand la classe moyenne se met en colère que les régimes sont renversés.
Monsieur Reichmann, bonne nouvelle, je viens de tout juste d'avoir le journal La Presse, ici quotidien, ici au oui. Québec. On nous annonce que le Canada expulse un nombre record d'étrangers. Alors, on les a refusés pour la simple et bonne raison que la grande majorité, il s'agissait d'étrangers qui ont vu leur demande d'asile politique rejetée. Alors, moi, je vous invite, hein, si vous êtes tanné de la France, ben on a une place pour vous. On a une place pour vous, si jamais...
Donc, vous ne m'expulserez pas, pardon, si je viens vous visiter à Rokik.
Ah non, pas vous. Nous, on va j'ai des contacts auprès du Parti conservateur, de très bons contacts, M. Reichmann. Je peux tout de suite vous dire que vous allez rentrer facilement au Canada.
Bon, ben, je m'en réjouis vivement. Bon, cela dit, j'espère que vous ne serez pas expulsé, parce que, vous savez, il y a un moment où les expulsions de nationaux plutôt que l'expulsion de gens en situation irrégulière peuvent devenir d'actualité, parce que les nationaux qui ne sont pas contents et qui protestent deviennent une épine dans le pied eux aussi pour le gouvernement. Donc ce qui peut paraître curieux et sujet de plaisanterie devient parfois réalité. Il est déjà arrivé dans des pays qu'on fout dehors les contestataires, ou alors comme en Union soviétique on les mettait dans des hôpitaux psychiatriques.
Oh, enfin bref, donc
il faut l'éviter à tout prix.
merci, M. Reichmann, pour votre intervention. On se laisse sur ça et je vous souhaite un excellent week-end. Merci aussi d'avoir accepté de changer notre horaire.
On reprend notre horaire la semaine prochaine?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Merci.
Alors donc, à 13h heure française, et bon week-end à vous et à bientôt.
Si y a quoi que ce soit, je vous en informe.
Et mes amitiés à votre compagne et à votre enfant, puisque j'ai découvert aujourd'hui que vous étiez chargé de famille.
Eh bien, attendez, elle a 5 ans, mon enfant, là. Je viens pas juste de
Vous lui faites un gros bisou de ma part.
C'était sa fête, elle vient d'avoir 5 printemps, M. Reichmann.
Ah, c'est magnifique. Donc, vous l'embrassez de ma part, hein?
Certainement, M. Reichmann, et merci.
Allez,
à vous.
À bientôt.
Et au revoir. Alors, c'était Claude Reichmann, on s'arrête un petit instant avec la Galine Napoléon.
Rocky.com, dans vos dents, et totalement fier.
C'est là à toi ce matin.